Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire en cette matinée du jeudi 13 juin 2024, le Premier ministre guinéen refuse de s'engager sur une date de fin du régime militaire. RDC, au moins 80 personnes mortes dans le naufrage d'une embarcation dans l'ouest du pays. Au Mali, le secteur de l'élevage en difficulté à cause des troubles dans le centre du pays.
Et cela à 3 000 ou 4 000 francs CFA par tête de mouton de Mopti à Bamako. Tu ne peux pas non plus te déplacer avec la liquidité.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Début ce jeudi du sommet du G7 en Italie. Les 7 nations les plus industrialisées du monde vont se pencher sur le soutien à l'Ukraine et aux efforts en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. En sport, décès de Jerry West, le logo de la NBA, retour sur son parcours dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. En Guinée, le Premier ministre Amadou Ouriba a refusé hier de s'engager formellement sur un retour des civils au pouvoir en 2025, alors que le départ des militaires initialement prévu d'ici à la fin de l'année a déjà été repoussé. Le point avec Rosine Mounezero.
Amadou Ouriba a affirmé la nécessité d'établir au préalable un fichier électoral incontestable alors qu'il a été la source de querelles par le passé et d'organiser un référendum constitutionnel avant fin 2024, comme selon lui, le général Mamadi Doumbouya s'est engagé. Après le référendum, tout le reste pourra se faire de manière concertée parce que les conditionnalités les plus difficiles seront à partir de ce moment-là derrière nous. Cependant, il s'est gardé à plusieurs reprises de dire que des élections auront lieu en 2025. Amadou Ouriba est le seul à s'exprimer sur de telles questions sur lesquelles la junte au pouvoir garde le silence. C'est lui qui a reconnu en mars que les militaires ne tiendraient pas l'engagement pris de céder leur place à des civils avant fin 2024 et qu'ils devraient rester au pouvoir au moins jusqu'en 2025. Il s'est dit opposé à une levée de l'interdiction de 6 radios et télévisions imposée par la junte le mois dernier. Il s'est aussi prononcé sur les tensions entre la CDAO et l'Alliance des États du Sahel, formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces 3 pays ont annoncé en janvier leur retrait de la CDAO, dont fait partie la Guinée.
Au Burkina Faso, Mousbila Sankara a été enlevé mardi par des individus disant appartenir au service de renseignement. Âgé de 74 ans, l'ex-diplomate et compagnon de lutte du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, tué en 1987, a été enlevé aux environs des 5h du matin à son domicile à Ouagadougou par des individus affirmant être des agents de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. C'est ce qu'a affirmé un de ses proches, ajoutant qu'au départ, il s'agissait d'aller l'entendre et de le ramener en fin de matinée du mardi. Mais, depuis lors, on n'a plus de ces nouvelles, a-t-il poursuivi, dénonçant un enlèvement et appelant à sa libération immédiate. Mi-mai, Mousbila Sankara avait exprimé dans une lettre ouverte de sérieuses inquiétudes quant à la conduite du régime militaire au pouvoir dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. En République démocratique du Congo, au moins 80 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation près de la cité de Mouchié, dans la province du Maïndombé, dans l'ouest du pays. Le point avec Eddy Sango.
Le bilan est donné dans un communiqué de la présidence de la République posté hier sur les réseaux sociaux X. Le président Félix Tshisekedi s'est dit meurtri par ces drames et exige une enquête en vue de élucider les causes de l'accident et éviter qu'un tel désastre ne se reproduise. Il instruit les autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour venir en aide aux personnes touchées par cette toute dernière catastrophe. Le naufrage s'est produit dans la nuit de mardi sur la rivière Kwa, à 70 km de Mouchi. Selon le commissaire fluvial de Mouchi, cité par des médias locaux, l'embarcation, une baleinière, avait 272 personnes à bord et des marchandises. 185 ont survécu. La baleinière a connu une panne de moteur et s'est heurtée à un banc de sable avant de se briser et chavirer dans l'obscurité de la nuit. Les naufrages sont fréquents en RDC, un pays où beaucoup empruntent la navigation fluviale pour transporter leurs marchandises pour contourner les manques de vols intérieurs et les manques de routes dans un pays immense.
En Afrique du Sud, le parti nationaliste Zulu Inkatha, qui dispose de 17 sièges sur 400 à l'issue des législatives, s'alliera à l'ANC qui a perdu sa majorité historique pour former un gouvernement de coalition. Les détails avec Dili Diko.
Il est temps pour l'IFP de renforcer le gouvernement, a annoncé son dirigeant, Valenko Sini, Labissa, alors que le président Cyril Ramaphosa a appelé à un gouvernement d'union nationale. Au sein de ce futur gouvernement, l'IFP apportera l'intégrité, la stabilité et la volonté de faire progresser notre pays et son peuple vers un avenir meilleur, a ajouté le chef du parti Zoulou. Les pourparlers entre différents partis se poursuivent avant la première session du Parlement prévue vendredi, au cours de laquelle sera élu le président de la République. Le Congrès national africain de M. Ramaphosa a obtenu seulement 40% des voix à l'issue du scrutin fermé. Sans majorité absolue à l'Assemblée, il doit désormais nouer des alliances pour gouverner. L'ADA, premier parti d'opposition, a obtenu 87 sièges de députés sur la base d'un programme libéral et devrait vraisemblablement contribuer au gouvernement de coalition. Le ralliement de l'IFP à ce futur gouvernement semble accréditer l'hypothèse d'une alliance ANC-DA-IFP. Cyril Ramaphosa, qui devrait être élu vendredi, aura plusieurs jours pour annoncer un gouvernement dont la composition reste pour l'heure inconnue.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants des pays du groupe des 7, Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni, se réunissent ce jeudi et ce jusqu'à samedi dans le sud de l'Italie. Ils ont en prélude à ce sommet trouvé un accord sur le décaissement de 50 milliards de dollars pour l'Ukraine via l'utilisation d'actifs russes gelés, a annoncé hier soir la présidence de la République française, précisant que ce décaissement interviendrait avant la fin de 2024. Les précisions de John Lindon.
Il y a un accord. Comme toujours au G7, les leaders prennent une décision et les techniciens font ensuite leur travail pour la mettre en forme, pour s'assurer qu'elle soit conforme aux droits, aux règles des finances publiques ou encore aux capacités financières des uns et des autres, a-t-on expliqué de même source. En outre, le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky signeront un accord bilatéral de sécurité, a annoncé mercredi la Maison-Blanche. Les États-Unis ont par ailleurs dévoilé mercredi une nouvelle salve de sanctions visant à asphyxier l'effort de guerre russe en Ukraine. Moscou a promis de répondre à ces mesures agressives. L'Italie, pays hôte, veut faire de l'intelligence artificielle un des thèmes du sommet, notamment ses impacts sur le marché de l'emploi. La première ministre Giorgia Meloni a déclaré en avril que la présence du Saint-Père pourrait apporter une contribution décisive.
Le premier ministre britannique Rishi Sunak va annoncer lors de ce sommet du G7 en Italie une nouvelle aide bilatérale allant de 286,5 millions d'euros pour soutenir l'Ukraine, a indiqué le Downing Street hier soir. Cette aide doit permettre de répondre aux besoins humanitaires, énergétiques et de stabilisation immédiate de l'Ukraine et jeter les bases d'une reprise et d'une reconstruction économique et sociale à long terme, a indiqué dans un communiqué donc le Downing Street. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est dit déterminé à faire pression pour un cessez-le-feu à Gaza après 8 mois de guerre. Concluant à Doha une tournée dans 4 pays, dont Israël, Blinken a affirmé que Washington travaillerait avec les autres pays médiateurs, le Qatar et l'Égypte, pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Mardi, le Hamas a annoncé avoir remis au Qatar et à l'Égypte sa réponse au plan annoncé le 31 mai par le président Joe Biden. Le contenu de la réponse du Hamas n'a pas été révélé. Mais Blinken a déclaré à Doha que certains changements réclamés par le Hamas étaient réalisables, d'autres pas. Le plan du président Joe Biden prévoit dans une première phase un cessez-le-feu de 6 semaines accompagné d'un retrait israélien, des zones densément peuplées de Gaza, la libération de certains otages retenus à Gaza et la libération des Palestiniens emprisonnés par Israël. Donald Trump se rend ce jeudi à Washington pour une grande offensive de charme auprès de parlementaires républicains et de patrons de multinationales américaines. L'ancien président candidat à l'élection de novembre face à Joe Biden va échanger sur le programme législatif de 2025 et la meilleure façon de renforcer la majorité républicaine à la Chambre des représentants. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le Ghana a finalisé un pacte avec son comité officiel de créanciers pour formaliser un accord de restructuration de la dette conclu en janvier, facilitant ainsi le déblocage d'un financement supplémentaire du FMI, a déclaré son ministère des Finances mercredi. L'accord ouvre la voie à l'approbation par le FMI d'une deuxième revue d'un prêt de 3 milliards de dollars et au déblocage de la prochaine tranche de 360 millions de dollars. L'approbation devrait également déclencher une aide financière supplémentaire de la part des partenaires de développement d'Accra, en particulier de la Banque mondiale. La Zambie va créer une nouvelle entité pour l'investissement et le commerce des minerais dans le but de tirer davantage profit de ses ressources naturelles, a annoncé mercredi le cabinet après avoir donné son approbation. L'entité permettra au gouvernement de négocier les prix des minerais et de garantir la déclaration correcte des envois de ces minerais destinés à l'exportation et à l'usage intérieur, ajoute-t-il. Pour terminer, les exportations du Kenya ont été nettement moins performantes en 2023, déplore la Banque mondiale. En outre, le pays n'a pas diversifié ses produits ces dernières années et a perdu en compétitivité sur les marchés vers lesquels il exportait.
Et sans transition, les nouvelles sportives et le retour d'Eric Manirakiza. Bonjour Eric. On commence par cette triste nouvelle avec le décès de Jerry West, le logo de la NBA.
Figure emblématique de la NBA, Jerry West est décédé mercredi à 86 ans, ont annoncé les Los Angeles Clippers, où il était consultant. West, un talentueux scoreur, a inspiré le logo officiel de la Ligue en 1969. Le commissionnaire de la NBA, Adam Silver, l'a salué comme un génie du basket. Michael Jordan et LeBron James ont également exprimé leur tristesse face à cette perte. Malgré une carrière marquée par cet échec en finale de NBA, West a remporté un titre avec les Lakers avant de prendre sa retraite en 1974 et une médaille d'or olympique à Rome. Connu pour son incroyable capacité à marquer dans les moments décisifs, il restera une légende du basket.
Jerry West, c'est 8 défaites en 9 finales.
Jerry West a terminé sa carrière avec une moyenne de plus de 27 points par match à une époque sans tir à 3 points. Sélectionné 14 fois au All-Star Game, il était également un excellent défenseur. Né en 1938 à Cabin Creek, en Virginie-Occidentale, dans une famille de 6 enfants, il était battu par son père. À 13 ans, il fut traumatisé par la mort de son frère aîné pendant la guerre de Corée, se réfugiant alors dans le basket. À l'université, il a perdu en finale de la NCAA avec West Virginia. Recruté par les Lakers en 1960, il avait formé un duo avec Elgin Baylor, mais avait échoué 6 fois face aux Boston Celtics de Bill Russell, développant une aversion pour Boston.
West est aussi un general manager à succès.
Son prestige personnel montait sans cesse, mais la consécration collective le fuyait. En 1969, il est devenu le seul joueur à être élu MVP d'une finale perdue malgré 42 points lors du match décisif. Après avoir remporté le titre en 1972, il est devenu manager général des Lakers, orchestrant les recrutements de Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Il a par la suite rejoint les Warriors et les Clippers en 2017. En 2011, marié et père de 5 enfants, son autobiographie révèle une vie intérieure tourmentée malgré ses succès.
Du football avec Thiago Motta qui est nommé nouvel entraîneur de la Juventus Turin.
Oui, Thiago Motta atteint une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant la Juventus. L'ascension fulgurante de l'ancien défenseur brésilo-italien du Paris Saint-Germain s'est intensifiée à 41 ans. Il a été nommé entraîneur de la Juventus Turin ce mercredi, s'engageant jusqu'en 2027.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouedraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Le sommet du G7 débute ce jeudi en Italie. Le président Joe Biden va tenter d'obtenir un accord sur l'utilisation des intérêts provenant des avoirs russes gelés pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine. Il va aussi plaider en faveur de l'unité pour relever les défis mondiaux comme le financement des infrastructures, l'intelligence artificielle et la surcapacité chinoise en matière de technologie verte. Toutefois, comme le rapporte Patsy Widakuswara, chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, un glissement à droite du paysage politique européen pourrait compliquer ses projets. Récit Rosine Mounessero.
Les forces russes progressent sur le champ de bataille en Ukraine et la lassitude des contribuables américains et européens à l'égard du financement de la guerre s'installe. C'est dans ce contexte que les États-Unis veulent que le groupe des 7 principales nations industrialisées accorde à Kiev un prêt de 50 milliards de dollars. Ce prêt serait remboursé grâce aux intérêts des quelque 280 milliards de dollars d'actifs russes bloqués dans des institutions financières occidentales. Le président Joe Biden s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris la semaine dernière.
Les États-Unis sont à vos côtés. Vous êtes le rempart contre l'agression en cours.
Le mois dernier, M. Biden a quadruplé les droits de douane sur les véhicules électriques chinois et d'autres secteurs. Maintenant, il souhaite que le G7 s'attaque à la pratique de Pékin, consistant à inonder les marchés mondiaux d'exportation bon marché. Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain.
Il est essentiel que nous et les pays de plus en plus nombreux qui ont identifié cette question comme une préoccupation présentions un front clair et uni.
Toutefois, les victoires des partis d'extrême droite lors des élections européennes ont affaibli le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, ajoutant de l'incertitude à la position du G7 sur la Russie et la Chine. Ursula von der Leyen se bat pour rester à la tête de la Commission européenne. Si elle remporte un nouveau mandat, l'Europe devrait rester ferme à l'égard de la Russie et de la Chine. Liana Fix, chargé de mission pour l'Europe au Conseil des relations extérieures, a déclaré via Skype.
Mais les jokers sont les élections françaises, les élections surprises qu'Emmanuel Macron a annoncées après sa défaite aux élections européennes. Si l'extrême droite entre au gouvernement en France, nous aurons des difficultés non seulement à soutenir l'Ukraine, mais aussi à faire face à la Chine.
La première ministre italienne, Giorgia Meloni, hôte du G7, a invité le pape François à mettre en avant l'appel de Rome pour l'éthique dans l'intelligence artificielle. Cette invitation inattendue du pape François témoigne de l'intérêt croissant du Vatican pour l'intelligence artificielle que l'Église veut encourager tout en alertant sur les risques de dérive. Réduire l'immigration vers l'Europe en investissant en Afrique est un autre thème de la présidence du G7 de Madame Meloni. L'initiative s'aligne sur le partenariat pour l'infrastructure et l'investissement du G7. L'objectif est de mobiliser 600 milliards de dollars de financement privé pour les infrastructures d'ici 2027 comme alternative à l'initiative chinoise appelée la ceinture et la route. La victoire du parti d'extrême droite de Mme Meloni aux élections européennes a consolidé son pouvoir. Giorgia Meloni, première ministre italienne.
Je suis fière que cette nation se présente au G7 en Europe avec le gouvernement le plus fort de tous.
Joe Biden arrive au sommet du G7 en Italie, mais l'ombre de son prédécesseur Donald Trump va planer sur ses rencontres du 13 au 15 juin. Une victoire de Donald Trump et le retour de son thème favori, l'Amérique d'abord, inquiète la majorité des dirigeants du G7. Joe Biden en est conscient et ne se gêne pas de le répéter.
Au Mali, l'élevage, autrefois pilier de l'économie, est en crise en raison des troubles au centre du pays. Les marchés de bétail ont fermé les uns après les autres et les pistes de transhumance sont presque inexistantes. Le seul moyen de satisfaire les besoins des capitales telles qu'Abidjan, Dakar et Bamako reste le transport en commun qui demeure inaccessible pour les éleveurs du Sahel. C'est un reportage de Mokhtar Bari.
Le Mali, autrefois considéré comme un pays d'élevage par excellence, les crises sécuritaires qui sévissent dans le Sahel ont engendré plusieurs problèmes pour ce secteur, qui constitue 19% du produit intérieur brut. Si les éleveurs qui avaient pour habitude de longer les routes pour gagner les pays voisins du Mali comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, surtout à l'approche de la Tabaski, Le phénomène du terrorisme a mis un frein à cela. Ndebi Bokoum sillonne les quelques rares marchés toujours en activité dans le centre du pays.
Aujourd'hui, la transhumance à pied, c'est fini. Nous allions à Mopti et des marchés de bétail environnants, mais aujourd'hui, tout cela s'est arrêté. Nous ne pouvons plus nous rendre à Déré, nous allons juste à Nyono pour charger les animaux et les ramener à Bamako.
Les groupes armés terroristes et des milices d'autodéfense sont pointés du doigt sur les razzias des bétails. Ousmane Maïga, qui est dans cette activité depuis une trentaine d'années, s'offusque des conditions dans lesquelles il travaille aujourd'hui.
C'est les camions ou les cars nous restent comme moyen de transport. Et c'est là à 3 000 ou 4 000 francs CFA par tête de mouton de Mopti à Bamako. Tu ne peux pas non plus te déplacer avec la liquidité. Il y a trop de difficultés vraiment. Nous sommes obligés d'acheter nos moutons dans les villes et ensuite les transporter. C'est vraiment excessif.
Au Mali, au moins 80% de la population pratique l'élevage. L'instabilité au centre du pays, qui constitue la zone de concentration du cheptel malien, a eu pour conséquence la flambée des prix du mouton. Ndebi Bokoum, éleveur, et Samba Cissé, chef du grand marché de bétail de Bamako, interpellent les autorités.
Il va falloir que l'État ait un regard attentif sur les commerçants de bétail. Nous leur demandons de ne pas nous confondre avec les bandits armés. Après tout, s'il plaît à Dieu, si la paix revient, tout reprendra normalement. Mais en attendant, nous demandons à l'État de s'occuper de nous et de nos animaux.
Du Mali jusqu'au Ghana, c'est le Mali qui ravitait toute la zone en bétail. Rien que tout, après les autorités sénégalaises nous offrent des facilités pour acheminer le bétail en vue de la fête de Tabaski. Donc le Mali qui est comme l'usine ne doit pas rester à la traîne en matière d'appui à la filière.
L'élevage est la principale source de revenus de 30% de la population malienne. Le bétail est le troisième produit exporté après l'or et le coton. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En Sierra Leone, dans les bidonvilles tentaculaires du Freetown, le couche fait des ravages parmi les jeunes. Cette drogue synthétique bon marché est fabriquée localement à partir de cannabis, de fentanyl et de tramadol. Les ingrédients exacts sont de plus en plus difficiles à vérifier. Nanit Talani.
Mohamed Camara, 23 ans, est une victime du couche parmi tant d'autres stupéfiants. Sa dépendance à cette drogue dévastatrice a détruit sa vie et brisé le cœur de sa mère.
Je suis un être humain, j'ai des sentiments. Même si ma mère dit que je n'ai pas de conscience et que je n'ai pas de sentiments, parfois, quand je suis assis seul et que je pense à ce que j'étais avant, j'ai l'impression que je suis en train de me détruire et de détruire mon avenir.
Sa mère, Memounatou Camara, 49 ans, vend du poisson sur un marché local. Elle se plaint du fait que son fils a volé et vendu les quelques objets de valeur que possédait la famille pour se procurer de la drogue.
Je souffre chaque fois que je le vois parce qu'il n'est plus comme avant. J'ai honte en présence des gens, j'ai mal. Je suis découragée par ce couche parce que l'état de mon fils n'est pas bon. Je ne sais pas quoi faire d'autre.
Plusieurs raisons poussent les jeunes à prendre cette drogue contre laquelle le président Julius Maada Bio a déclaré l'état d'urgence en avril. Pour Abayomi Babaloba Akinbo, un vendeur de pièces détachées, c'était la dépression.
J'étais en dépression et je suis sorti de la dépression. Je voulais voyager et quelqu'un m'a dupé. C'est ce qui m'a poussé à prendre du couche.
Les ressources du gouvernement pour lutter contre le couche sont insuffisantes. le seul centre public de désintoxication en Sierra Leone, n'est pas en mesure d'accueillir toutes les personnes ayant besoin d'un traitement contre la toxicomanie. Des groupes de la société civile tentent de combler les lacunes. Souleymane Monsaraï, responsable de la jeunesse de la communauté de Bombay.
Depuis janvier 2024, date à laquelle nous avons lancé ce projet, près de 70 personnes ont changé de vie. Nous sommes heureux lorsqu'elles reviennent nous remercier et prier pour nous pour avoir changé leur vie.
Pour un Soukone qui dirige le centre de désintoxication, la lutte contre le couche est très difficile.
C'est comme une guerre, ce n'est pas un combat d'un mois. Le président ayant déclaré l'état d'urgence, tout le monde doit maintenant se mobiliser parce que le couche affecte tout le monde.
Les travailleurs sociaux des ONG sont sur le terrain dans les bidonvilles de Freetown. Ils s'adressent directement aux personnes dépendantes du couche qui a poussé les jeunes à abandonner leurs études et à entraîner des problèmes de santé.
Direction l'Est de la République démocratique du Congo, où de jeunes journalistes suscitent l'admiration par leur résilience. Ils ont quitté la cité de Sake, où l'armée congolaise combat les rebelles du M23, pour installer leur studio dans un camp de déplacés dans des conditions difficiles. Leur objectif ? Informer et donner la parole aux déplacés. Davantage avec notre correspondant dans la région, Zanem Neti Zaidi.
Réfléchir, débattre et choisir des sujets d'actualité attractifs sur les quotidiens de ces jeunes journalistes déplacés qui, depuis quelques mois et contre toute attente, ont pu déplacer leur radio de la cité des Sake, où se poursuivent les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 vers les camps de déplacés de Lushagala. L'objectif premier de la radio est de faire entendre la voix des déplacés. Faustin Bahati, rédacteur en chef de la radio Sake FM.
On ne pouvait pas vraiment manquer un petit papier qui va décrire les conditions ou la situation des déplacés dans les camps. Les auditeurs nous ont appelés pour nous parler de leur situation. Et nous avions cherché également à alerter les autorités à travers notre journal.
Il s'agit de la deuxième phase de la campagne.
Sensibiliser à la non-violence contre les femmes dans les camps des déplacés est également l'objectif de la radio, ce qui tient à cœur Eugénie Mouressi, une jeune journaliste de 19 ans. Actuellement déplacée, elle dit en avoir assez de l'indifférence de la communauté à l'égard du sort des femmes déplacées.
J'ai l'habitude de faire ici dans les cas des déplacés. Souvent je passe, je récolte des informations concernant les femmes, concernant des viols, questions de violence, pour aller les diffuser à la radio, voir comment les autorités vont trouver une solution, comment les déplacés peuvent regagner leur milieu.
Travailler sans fond et se contenter des petites contributions des journalistes qui, de surcroît, sont déplacés et privés des moyens, compromet l'évolution du travail. Ismaël Matungulu est le directeur de la radio Sake FM.
À Sake, en tout cas, on a vandalisé les studios de la radio communautaire Sake FM et tous les matériels nécessaires de la radio qu'on avait pillé. Ici, nous utilisons l'émetteur, il y a également un petit mixeur, il y a un dictaphone, il y a aussi une seule machine.
Radio Sake FM couvre la plupart des camps des déplacés autour de Goma et une grande partie de la ville de Goma capte également le signal de la radio. En raison du manque de carburant, la station diffuse 10 heures par jour, 5 heures le matin et 5 heures le soir. La radio compte étendre sa zone de couverture dans un proche avenir. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique, Goma.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yakuba Ouedraogo, Simpson Lumami à la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie du programme de VOA Afrique.